Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Rassette, c'est l'heure d'Accès libre. Et aujourd'hui, on se demande si le projet de loi 96, qui concerne les personnes sous curatelle ou tutelle, n'est pas davantage inspiré par l'augmentation des coûts que par le bien-être de ces personnes. Donc, on en parle avec l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, qui est représentée par sa directrice générale, Doris Provencher. Sinon, on doit lire entre les lignes pour comprendre la différence intellectuelle. Et on fait ça à l'occasion de la sortie du livre « Expérience interligne » qui est lancé par les Compagnons de Montréal dans presque 2 heures. On présente aussi le très important colloque pour une ville inclusive avec Patrick Fougiroulas. Et dans quelques instants, on s'entretient avec Jean-Marie Damour du regroupement des aveugles et amblyopes sur les besoins de ses membres en vue d'une loi à venir, celle du Canada accessible. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Canada accessible. Cette vaste consultation qui doit donner lieu à une loi canadienne sur l'accessibilité crée des mouvements un peu partout et plusieurs organismes en profitent pour consulter leurs membres. Donc, ce fut le cas du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain avec nous pour témoigner des préoccupations des personnes aveugles qui sont engagées dans son organisation. Jean-Marie Damour, premier vice-président de l'organisme. Bonjour, Monsieur Damour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Plaisir.
Très bien. Donc, avant tout, les consultations vont être considérées pour que la ministre Carla Caltro puisse proposer une loi. Est-ce que vous croyez que vos membres au regroupement sont confiants que cette future loi va pouvoir améliorer leur vie?
On l'espère, du moins.
Vous espérez?
On a eu une rencontre récemment avec un conférencier qui nous a permis de mieux comprendre la portée que pourrait avoir cette loi-là, les limites aussi, parce que comme c'est une loi fédérale, il faut qu'elle se concentre sur les champs de compétences du gouvernement fédéral, comme les transports, les télécommunications, les banques, etc. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'autres questions qui nous intéresseraient, mais qui ne relève pas du gouvernement fédéral, qui relève plutôt du gouvernement provincial. Alors, c'est sûr qu'il faut se concentrer sur les choses qui concernent le gouvernement fédéral, mais entre autres dans les préoccupations que les gens mentionnaient autour de la table lors de cette conférence, il y avait la question des normes.
Ah, les normes, donc, on parle des normes même de fabrication de tous les produits et services à travers le Canada.
Effectivement, le Conseil canadien des normes, c'est un organisme qui relève du gouvernement fédéral, où les utilisateurs, en particulier les utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles, sont peu présents, pour ne pas dire absents.
Ah oui.
Alors, et pourtant, il y a beaucoup de ces normes-là qui nous concernent et qu'on voudrait voir améliorées pour qu'elles soient plus inclusives.
Qu'est-ce que ça veut dire? Puis quel produit dont vous parlez exactement?
Ben, on pense entre autres aux terminaux de points de vente qui sont utilisés dans les commerces.
Oui, c'est fréquent ça, oui.
On a déjà acheminé des revendications au gouvernement fédéral à ce sujet-là.
Okay.
On s'est adressé aussi directement aux banques, mais on pense que probablement que si on passait par le Conseil canadien des normes, on pourrait bonifier ou obtenir une norme canadienne à cet effet-là et améliorer la situation de beaucoup de personnes, particulièrement des personnes aveugles, mais aussi des personnes malvoyantes, là, parce que dans nos revendications, il y a des...
Où c'est impliqué,
Il y a des revendications aussi qui concernent des personnes malvoyantes, là, comme des meilleurs contrastes, par exemple, au niveau de l'écran. Ça, c'est un des exemples de ce que une loi fédérale pourrait apporter. Là.
Et puis, est-ce que vous diriez que c'est ça les priorités, donc des meilleures normes pour les produits ou services et peut-être aussi l'accès aux banques?
L'accès aux banques,
l'accès aux
au
terminaux,
niveau
disons.
des banques, ils ont des obligations au niveau de l'équité en emploi qui concerne les personnes handicapées, mais qui n'ont pas toujours l'air... En fait, on ne sait pas si ces obligations-là sont vraiment obligatoires, s'il y a un suivi qui est fait, s'il y a... parce que c'était une des préoccupations aussi des gens à cette rencontre-là, c'est bien beau énoncer des principes et de belles choses, mais encore faut-il que ça rentre en application et qu'il y ait des organismes qui soient chargés de surveiller cette application-là, okay, puis de s'assurer que ça passe vraiment dans la pratique.
Et donc, non seulement de surveiller, mais j'entends presque dans votre préoccupation, est-ce qu'il y aura des contraintes pour
oui,
les gens qui appliquent ces normes?
Des contraintes et des conséquences
oui.
aussi pour ceux qui n'appliqueraient pas les bonnes choses.
Bon. Donc, on avait fait plutôt une émission spéciale en septembre dernier. Le RAC, organisme dont vous êtes membre d'ailleurs, le Regroupement
oui.
des aveugles et amblyopes du Québec, parmi ses constats, disait qu'il y avait une très faible documentation sur l'accessibilité pour les personnes aveugles, et ce, partout au pays. Est-ce que vous allez revendiquer des meilleures recherches ou évaluations de l'accessibilité?
Oui, certainement au niveau de l'accès à l'information, entre autres, qui est une grande préoccupation pour nos membres. On souhaite qu'il y ait encore là des normes qui ne soient pas seulement... Le gouvernement fédéral s'est déjà imposé des normes, mais on souhaite que, via cette loi-là, on impose ces mêmes normes-là à différents secteurs sous contrôle fédéral, si on peut dire. Là, les banques ont une démarche volontaire jusqu'à maintenant, mais dont on ne connaît pas nécessairement la portée, mais les résultats, disons.
Okay.
Le CRTC a pris des initiatives aussi à l'occasion des renouvellements de permis pour imposer des choses, mais c'est pas toujours très clair ce qu'on demande effectivement aux diffuseurs. Alors, il y a lieu de clarifier tout ça.
Donc, vous voulez qu'on clarifie puis on étaye tout ça, dans le fond. Non seulement ce qu'on demande, mais ce qu'on...
uniformise aussi, là.
OK, qu'on uniformise. OK.
Oui.
Bon, bien. Écoutez, il reste pas beaucoup de temps à notre entrevue, mais j'aimerais beaucoup savoir, est-ce que vous allez de cette consultation qui se tiendra le 16 novembre prochain pour
oui.
faire valoir
oui.
vos revendications? Donc, j'invite les gens, non seulement vos membres, mais aussi les personnes aveugles, pour participer à la consultation. Il est possible de le faire en allant sur Internet via consulter les Canadiens au sujet d'une loi prévue sur l'accessibilité. Donc, vous pouvez trouver ça sur Google. On va le mettre aussi sur notre site web du Canal M, le lien. Et n'oubliez pas aussi de vous exprimer lors de la consultation qui sera le mercredi 16 novembre au Palais des Congrès à Montréal. Donc, vous allez être là, c'est ça?
Oui, certainement.
Bon, alors on a quelques idées de ce que vous allez porter à ce moment-là. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Damour, vice-président principal du RAM.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Bonne journée.
La curatelle ou la tutelle, c'est une expression qu'on entend. Peut-être que vos proches ou que vous-même connaissez ce régime de protection publique, je vais me permettre une mise en contexte avant de donner la parole à Doris Provencher. Vous savez que le gouvernement, avec le projet de loi 96, s'apprête à modifier un nombre important de dispositions, notamment de la loi sur le curateur public. Et on comprend que ces modifications vont toucher les personnes qui ont une déficience intellectuelle, à des problèmes de santé mentale ou une maladie dégénérative et qui ont besoin de ce régime de protection. Alors, avec nous, Doris Provencher, directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Elle a déposé un mémoire. Elle fait partie des groupes qui sont plutôt indignés de ce projet de loi. Alors, bonjour, Madame Provencher.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bien, c'est moi qui vous remercie.
Alors, avant tout, ou très brièvement, j'aimerais ça, parce que vous avez souri un peu dans votre voix quand j'ai parlé de tutelle ou curatelle, mais j'aimerais ça que vous me rappeliez ce que sont ces responsabilités du curateur public à l'égard des personnes sous tutelle ou curatelle.
C'est ça. Écoutez, on va faire un très, très bref retour en arrière.
Oui.
On se rappelle tous des asiles psychiatriques des années 30, 45, hein, où on mettait quelqu'un puis on l'oubliait là. La curatelle publique en 45, elle a été fondée, entre autres, pour justement protéger les personnes qui se ramassaient en hôpital psychiatrique. Donc, la mission de la curatelle publique, sa principale mission, c'est vraiment de protéger les plus démunis de notre société, ceux qui se retrouvent considérés comme inaptes, donc soit à gérer leurs biens, à gérer leurs personnes ou les deux. C'est vraiment le dernier rempart pour les gens qui sont vraiment les plus démunis, donc au niveau de leur protection et de leurs droits et de leur argent et de tout, en fait.
Bon. Et il faut même rappeler, c'est étonnant, mais c'est même un legs du gouvernement de Maurice Duplessis.
Exact.
On peut imaginer.
Exact.
C'est peut-être une des rares choses progressistes qu'il a pu faire à l'époque.
Peut-être.
Oui. Je ne sais pas. Mais écoutez, vous êtes en campagne actuellement. Oui. Pourquoi on refuse ce projet de loi 96? C'est quoi les grandes objections que vous avez formulées à l'égard de cette réforme annoncée?
Oui. Bien, pour nous, c'est un recul considérable au niveau de la curatelle publique. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, actuellement, une personne, parce qu'il y a la curatelle publique et il y a des tuteurs ou curateurs privés. Par exemple, si moi, je deviens inapte et que des membres de ma famille peuvent prendre soin et de mon argent et de ma personne, on va faire ce qu'on appelle un conseil de famille. Donc, il y a un minimum de 5 personnes qui vont être appelées à se réunir pour décider ensemble qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. Hein? Il faut toujours que je sois considéré inapte. Ça, c'est bien important à garder en tête. Le projet de loi, ce qu'il propose, entre autres, c'est de dire, écoutez, si on n'arrive pas à rejoindre le monde, une personne, ça va être assez.
Ah oui. Donc, il n'y a plus cette obligation d'avoir 5 personnes présentes au conseil de tutelle.
C'est ce que le projet de loi propose, entre autres.
Okay.
Actuellement, encore, il y a, par exemple, je gère les biens de mon frère, je dois rendre compte une fois par année à la curatelle publique de ce que je fais,
comment
je gère l'argent de mon frère, par exemple. Le projet de loi, ce qu'il propose, maintenant, si le patrimoine de la personne est en bas de 25 000, on n'a plus besoin de faire rapport à la curatelle publique.
Et pourtant, on sait très bien que quelqu'un qui a moins de 25 000 $ chaque dollar compte. Hein?
Exact. Et vous savez, les groupes en promotion et défense de droits de santé mentale aident sur le terrain régulièrement des personnes sous régime de protection. Et même si une personne a 9 000 $ de revenus par année, il y a toujours quelqu'un qui peut trouver moyen de l'exploiter.
Oui, bien sûr.
Alors, d'autant plus que la curatelle publique a vu ses services diminuer. Alors, nous, on dit, plutôt que la curatelle publique dise, le gouvernement dit qu'on n'a plus d'argent, on coupe. Plutôt que la curatelle publique, le curateur public se lève et dit au gouvernement, écoutez, là, moi, je protège les plus démunis.
Ouais.
Moi, j'ai besoin de plus d'argent pour faire ce que j'ai à faire. Point barre. Qui défendent les personnes qu'ils doivent défendre. C'est ça qu'on demande au curateur public. Et dans ce projet de loi-là, qui a été un peu suggéré par la curatelle publique elle-même,
ouais.
Non, on n'est pas content du tout, du tout, du tout.
Parce qu'en fait, il faut le dire, là, depuis, j'ai fait un peu de repérage des statistiques, mm-hmm. depuis, disons, 2010, il y a peut-être, bon an, mal an, 8, 9, 10 % d'augmentation de personnes à aider avec ce programme-là. Et vous, mm-hmm. vous sentez que derrière, c'est pas la motivation d'une réorganisation, mais bien celle de diminution de ressources.
Bien, c'est comme on répond à la commande du gouvernement.
Mm-hmm.
Moi, je pense que nous, en tout cas, à la GIDE, on pense pour la protection des droits, le curateur public devrait agir autrement,
oui.
devrait se lever debout. Et il y aurait plein de monde pour l'appuyer, en plus, dans notre société civile,
oui.
si le curateur faisait ça. Écoutez, c'est un non-sens. Le gouvernement qui coupe partout et qui va toucher les plus démunis. Et là, on est vraiment dans les plus démunis des démunis, là.
Oui.
C'est inacceptable.
Puis en plus, des gens qui sont facilement marginalisés.
Marginalisés, qui sont tout seuls, qui sont... Vous savez, quelqu'un, par exemple, qui est curatelle publique, qui vit à Gatineau, ben pour parler à son curateur, vous savez, des fois, l'hiver arrive, j'ai besoin de bottes, hein?
Oui.
Alors, il faut que je communique avec mon curateur. Je peux pas disposer de mon argent. Mon curateur est à Saint-Jérôme. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis ça, c'est si j'arrive à la rejoindre.
Oui.
Et puis de un, et de deux, on va me questionner peut-être, moi, es-tu sûr que tu en as besoin des bottes?
Mm-hmm.
Il me semble qu'il y a 2 ans qu'on t'en a acheté. Vous voyez, donc, il y a vraiment un problème au niveau de la protection. Et nous, on trouve que comme société, c'est indigne d'une société que de proposer ce projet de loi aux plus démunis.
Et j'ajouterais, parce que parmi vos objectifs, on entend oui. parfaitement votre défense des plus démunis de la société, mais il y avait une objection que vous aviez formulée aussi. Oui. En fait, on oublie que même pour les personnes, par exemple, qui ont une déficience intellectuelle,
mm-hmm.
les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, il peut avoir des variations. Et donc, on va apporter des changements avec cette nouvelle loi-là sur les périodes de réévaluation.
Exactement.
Ça, cette objection-là, j'aimerais ça que vous
oui.
en touchiez quelques mots.
Exactement. Vous savez, en 90, il y avait eu une réforme de la loi du curateur public qui introduisait, entre autres, le mandat en cas d'inaptitude, qui introduisait d'autres choses. Et il disait, pour une personne qui est sous tutelle, il faudrait qu'il y ait une réévaluation au bout de 3 ans, et une personne sous curatelle au bout de 5 ans.
Mm-hmm.
Bien, le projet de loi, là, c'est vrai, je vous remercie de me faire penser. Le projet de loi, ce qu'il propose, c'est 10 ans.
Oui.
Pour tout le monde.
10 ans, c'est énorme. C'est énorme. Imaginez les personnes qui vivent des situations un peu plus épisodiques ou des personnes qui ont une déficience intellectuelle avec qui on travaille pour renforcer les capacités, l'autonomie. Eh bien, ça, on ne peut pas apprécier ça en 10 ans. 10 ans plus tard.
Exactement.
Ouais.
Puis si même le projet de loi, bon, il dit que même si au bout de 10 ans, non, ça peut durer, je peux être réévalué au bout de 20 ans, voyons donc.
Oui, non, ça n'a aucun sens.
Je suis bien d'accord avec vous que effectivement, je peux changer, la situation peut changer, etc., bien sûr.
Écoutez, je suis tombé sur une note interne aussi du curateur qui s'intitule
ouais. «
Fait saillant » avec le nom du projet de loi. C'est vraiment particulier, on dirait presque une note de communication. Et on y écrit que l'esprit du projet de loi est de mieux faire respecter les droits des personnes inaptes, d'améliorer leur protection et de favoriser la sauvegarde de leur autonomie. Ce que vous démontrez en quelque sorte, c'est que c'est absolument pas ça le projet de loi.
Non, c'est absolument pas ça. Puis on a eu même le culot... Excusez-moi, là, mais parce qu'on a eu accès aussi à un document interne du curateur public dans une présentation. Et ce document-là, c'était comme un peu le livre blanc du projet de loi,
oui.
ce qui était proposé. Et on a parlé pour la dignité humaine.
Mm-hmm.
Je ne comprends pas comment on peut dire qu'on va augmenter la protection des droits quand on se décharge de plus en plus de nos responsabilités. Vous savez aussi, dans ce projet de loi, il y a ce qui parle de projets pilotes. Hein, donc, en tout cas, nous, ce qu'on en comprend,
oui.
peut-être qu'on se trompe, mais qu'on nous le dise. Mais c'est comme dans chaque région, là, il y aurait peut-être des personnes qui pourraient être nommées curateurs ou tuteurs.
Okay.
Pas nécessairement des membres de la famille, mais des personnes... En tout cas, c'est comme...
Mais donc, malgré tout, on a peut-être peu d'informations là-dessus, mais il faut quand même montrer qu'il y a une tendance à vouloir peut-être
oui.
déresponsabiliser le curateur vers des personnes ou des tiers. Écoutez,
oui.
vous lancez une campagne pour protester contre le projet
exact.
De loi. Si les gens le souhaitent, ils peuvent faire parvenir une lettre au ministre de la Famille pour demander avec vous le retrait du projet de loi. Donc, pour plus d'informations... On vous invite à pianoter à la maison, aux gens qui nous écoutent, le www.agidd.org.
Oui, où vous allez retrouver notre mémoire et mm-hmm. où vous allez trouver aussi un exemple de lettre.
Qu'on peut envoyer au ministre
Exactement.
De la Famille.
Puis,
donc,
écoutez,
c'est tout le temps qu'on avait.
Toujours,
c'est tout le temps qu'on avait, mais
c'est beau.
Merci de défendre avec autant de pugnacité. Merci, Doris Provencher.
Ben, je vous remercie. Au revoir.
Au revoir. Tenace les préjugés contre les personnes en situation de handicap dans le monde professionnel. Heureusement, il y a un chroniqueur déboulonneur de mythes avec nous, Franck Bouchard. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci de ton retour pour cette deuxième chronique. Est-ce qu'il y a des liens à faire, donc, entre les difficultés à trouver de l'emploi lorsqu'on est en situation de handicap et les préjugés des employeurs?
Bien, il est difficile de ne pas faire de lien quand même. Je pense que lorsqu'on regarde l'écart qu'il existe encore en termes de présence sur le marché du travail par des personnes en situation de handicap versus les personnes qui n'ont pas d'incapacité, il y a encore donc un certain écart. Et là-dedans, il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte et mm-hmm. sûrement celui des préjugés que peuvent encore entretenir un certain nombre ou un bon nombre d'employeurs. Donc, rentre sûrement là-dedans dans l'équation qui peuvent expliquer pourquoi, donc, les employeurs sont réticents à embaucher des personnes en situation de handicap. Est-ce que je vais déboulonner aujourd'hui des préjugés de ce que je vais voir?
Mais bon, j'ai un gros mandat
en
7 minutes.
Gros mandat, mais en tout cas, c'est certain que ça fait partie de l'environnement. On entend tous on a entendu des histoires là-dessus. Bon, j'ai envoyé plein de CV, j'ai jamais eu d'appel. Ou alors, lorsque je passe en entrevue, les gens me voient arriver, ou un petit malaise qui s'installe, puis finalement, on me rappelle jamais. Ça fait partie, veux pas, des histoires que les personnes vont rencontrer pour... risque d'arriver et pour certains, c'est un embûche supplémentaire. Comment les employeurs, donc comment passer outre à ces préjugés-là? Comment amener les employeurs à avoir une autre vision peut-être de la part des par rapport aux personnes handicapées, par rapport à leur capacité, par rapport à leur employabilité?
Oui.
C'est certain que c'est un facteur qui joue. Donc, si on regarde d'ailleurs les statistiques, il n'y a pas tellement longtemps, décembre 2015, la Commission canadienne des droits de la personne avait publié une sorte de compilation statistique un peu justement sur tout ce qui concerne les problèmes de discrimination, puis il y avait un chapitre notamment ce qui concerne les plaintes liées au handicap.
Mm-hmm.
Et lorsqu'on regardait donc un survol qui avait été fait entre les plaintes faites en 2009 et 2013, un peu partout au Canada, donc que ce soit aussi bien la Commission canadienne des droits de la personne que dans des autres entités provinciales comme la Commission, par exemple, des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec.
Mais oh, ça s'est
autres.
Validé encore.
Donc,
c'est le premier lieu de plainte.
C'est le premier lieu de plainte. On voit que, par exemple, la proportion des plaintes liées au handicap est très importante. Dans la plupart des provinces, c'est au-dessus de 50 % des plaintes qui sont déposées auprès des commissions des plaintes liées au handicap. Au Québec, c'est un peu moins. On est plus autour de 30-31 %, en tout cas dans ces années-là, tout le moins.
Mm-hmm.
Et lorsqu'on regarde les plaintes liées au handicap, mais qui concernent l'emploi, la très, très, très large majorité de ces plaintes-là sont liées au domaine de l'emploi. Dans la plupart des provinces, c'est au moins au-dessus de 50 %. Ça va même au-dessus à 80-85 %. Donc, que l'existence de préjugés, de discrimination est quand même très présente par rapport au marché de l'emploi.
Mais il faut quand même préciser peut-être aussi qu'au Québec, l'intégration ou l'inclusion au marché du travail, surtout sur certains groupes, notamment les personnes aveugles, est plus lente, j'oserais dire ça. Et donc, les gens portent moins plainte aussi Québec sur les questions de travail.
C'est certain que ces données-là, bon, c'est uniquement sur les gens qui portent plainte.
Ouais,
beaucoup
voilà.
de gens n'iront pas se plaindre parce que c'est peut-être compliqué. Justement, ouais. je disais en introduction, ben, les gens en entrevue, ça ne marche pas.
Ouais.
Comment dire que c'est à cause d'un préjugé, que c'est à cause de discrimination
c'est
qu'on
subtil.
M'a pas appelé? C'est plus subtil.
Subtil.
Donc, ouais. c'est certain que c'est pas simple à démontrer qu'on a été victime de discrimination.
Mais c'est quoi
qu'il y en a.
Mais on s'en doute, donc, qu'il y a des préjugés. Puis ce serait quoi les grands mythes des employeurs sur les personnes handicapées?
Ben, souvent, les grands mythes qu'on entend parler, on parle, par exemple, ça va coûter cher embaucher une personne.
Ouais.
Ben, je vais devoir faire des adaptations, je vais devoir débourser des frais, des rampes, des assemblages. Des adaptations technologiques, etc. Donc, ça va me coûter beaucoup de choux. C'est compliqué aussi de tout mettre ça en place puis intégrer la personne. La productivité dans mon entreprise est trop importante, trop grande. Les gens ne seront pas en mesure de rencontrer ces exigences-là en termes de productivité. Les clients qui vont venir vont peut-être être mal à l'aise d'être servis par une personne qui a un handicap. Les autres employés autour, peut-être les collègues de travail, peut-être qu'eux aussi ne se sentiront pas à l'aise ou ne sauront pas comment se comporter ou accueillir la personne. Mes coûts d'assurance vont augmenter, ma CSST, ça va augmenter. J'aurai à gérer plus d'absentéisme. La personne va être plus malade souvent que d'autres. Il y a toutes sortes de mythes ou en tout cas de raisons que se donnent les employeurs, peut-être à quelque part, à tort ou à raison. Puis quand on les regarde chacun, un après l'autre, on voit bien qu'il y a toutes sortes d'éléments que non, c'est pas vrai que ça va coûter plus cher. Non, c'est pas vrai que c'est si compliqué que ça.
Oui, il y a plein de ressources.
Il y a plein de ressources, effectivement, qui existent autour des programmes de gouvernementaux, d'aide financière, etc., les centres de réadaptation, les services spécialisés de main-d'œuvre. Il y a toutes sortes de ressources qui vont aider l'employeur et la personne à s'intégrer. Et quand ça fonctionne bien, quand tout ça est bien mis en place, c'est pas vrai que tous ces objectifs-là, ces objections-là, pardon, sont réelles.
Mm-hmm.
Donc, à partir de ces mythes-là, quand même, donc, les employeurs, quand même, ont développé une vision plus ou moins positive dans l'embauche des personnes en situation de handicap.
Et donc, est-ce qu'on peut les amener à se défaire de cette vision négative?
Bien, il y a une expérience qui a été menée dans les dernières années, dans le Bas-Saint-Laurent notamment, particulier, qui est à partir de la théorie qu'on appelle la théorie des représentations sociales. Là, je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer un peu tout ça, mais dans le sens où ils l'ont vraiment fait par rapport au marché du travail et les personnes en situation de handicap, comment cette théorie-là peut servir à expliquer pourquoi les employeurs, mais aussi les personnes elles-mêmes les employeurs ne voient pas les personnes handicapées comme étant pouvant faire partie du marché du travail, et les personnes elles-mêmes aussi, les personnes handicapées elles-mêmes, plus réticentes à sentir effectivement partie prenante de ce marché du travail-là. Et c'est cette théorie-là, donc, essaie de comprendre la chose, cette dynamique-là autour de comment les employeurs se représentent les personnes handicapées, donc on tombe dans les mythes que je te mets en
tour. Si on leur donne davantage d'exemples heureux.
Effectivement, et comment à partir de ça, comment les transformer? Bien, il y a toutes sortes d'éléments par différents éléments qu'on peut travailler sur transformer cette vision-là, transformer cette représentation-là et comment arriver. Donc, à partir d'éléments externes, de contraintes internes, les contraintes externes, des obligations légales peut-être un peu plus solides, des contraintes internes.
On peut s'aider au niveau légal. Là, il y a une loi en ce moment qui pourrait impacter sur le marché du travail. Et de l'autre côté, des exemples heureux.
Des exemples heureux, parce qu'effectivement, transformer la vision que les gens ont, c'est de démontrer que c'est possible à partir des exemples heureux. Si les gens veulent en savoir plus long, on pourra mettre sur le site
De Canal M.
Effectivement, un peu le résultat de ce travail-là dans le Bas-Saint-Laurent.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
Le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale organise un colloque international qui va se tenir les 8 et 9 novembre prochains. Le thème « Pour une ville inclusive, innovation et partenariat » et avec nous pour en parler, l'incontournable anthropologue pour le mouvement des personnes en situation de handicap, Patrick Fujiroulas. Bonjour!
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Avant tout, j'ose vous demander, pourquoi c'est le bon moment pour insister sur la ville inclusive?
Je pense que c'est la ville inclusive, c'est un projet qui demande la mobilisation de beaucoup de monde.
C'est sûr.
Et actuellement, chacun souvent travaille un petit peu dans son coin. C'est véritablement une occasion, je pense, dans le cadre de ce colloque, d'inviter là, tous les partenaires à réfléchir, à mettre en commun leurs idées, leurs innovations, et véritablement à passer à l'action. C'est un petit peu le message de ce colloque-là, dans le sens où tout le monde parle d'inclusion, d'approche inclusive, mais
mais qu'est-ce que c'est? Justement, donc c'est important de savoir qu'est-ce que c'est l'approche inclusive, puis quels sont les résultats, c'est ce que vous dites.
Oui, c'est ça, les résultats sont souvent à attendre. Ben, l'approche inclusive, hein, c'est vraiment d'avoir un habitat, un environnement qui permet à la population, dans toute sa diversité, c'est sûr que dans le colloque, on va insister beaucoup sur la diversité fonctionnelle de la population, mais en réalité, ça doit aussi s'articuler avec l'ensemble de la diversité de la population sur le plan de l'âge, sur le plan du genre.
Les personnes racisées aussi.
Exactement, oui. Donc, l'inclusion, c'est ça. Donc, en fait, l'inclusion, ce n'est pas quelque chose qu'on fait aux personnes, hein, véritablement. C'est vraiment une conception de notre contexte de vie, de notre environnement, et une transformation de cet environnement-là pour le rendre conforme à l'exercice, en fait, pour permettre aux gens de réaliser leur quotidien et d'exercer leurs droits.
Donc, tout le monde, en même temps, construise la société. C'est un peu ce que vous faites aussi dans le cadre de ce colloque-là. Vous appelez des gens d'un peu partout, juste pour les grandes lignes, des grandes conférences, des ateliers de co-création, deux panels sur les enjeux de l'innovation. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas manquer dans votre colloque là, qui se tient la semaine prochaine? Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à identifier?
Il y a plusieurs grands conférenciers. Il y a Jean-Baptiste Richardier, qui est le fondateur d'Handicap International, qui a eu la gentillesse de venir ouvrir le colloque avec sa perspective de l'urbanisation, je dirais, un peu sauvage dans les pays du Sud, où les personnes handicapées qui vivent des situations de handicap sont parmi les plus pauvres et en général particulièrement oubliés, en particulier dans les situations de crise ou de guerre, où ce sont les personnes qui souffrent le plus et dont on parle jamais. Donc, il va nous amener cette perspective-là. On va avoir Joseph Rousseau, qui est le commissionnaire à l'accessibilité de la ville de Chicago. La ville de Chicago est souvent citée en exemple pour son accessibilité universelle. Donc, il va nous expliquer un petit peu comment on doit mettre en œuvre les règles en lien avec l'American Disability Act et les règles par rapport à l'accessibilité. Donc, c'est des choses très intéressantes. Laurence Parent, qui va nous amener, que beaucoup connaissent, qui va nous amener son regard plus politique sur les attitudes, sur ce qu'on appelle le capacitisme.
Oui, un concept qui n'est pas encore très utilisé, très important au Québec, mais qui, en fait, Laurence Parent est maintenant une des voix fortes là, qu'il porte.
Exactement, c'est très, très, très important. Parce que quand on pense à l'accessibilité, souvent, on projette l'accessibilité de l'aménagement physique, hein, donc urbaine et tout cela. Mais moi, je vais en particulier insister là-dessus. Le concept d'accès inclusif, c'est pas simplement l'accessibilité architecturale, c'est aussi ce qu'on appelle l'acceptabilité, donc les
représentations. Donc, c'est les attitudes, les attitudes qui peuvent être discriminatoires. Il faut aller contre
exactement.
Ça aussi.
Attitude des architectes, attitude des urbanistes qui conçoivent la société pour des personnes qui sont performantes et donc qui n'ont pas dans leur approche cette conception justement inclusive qui est absolument essentielle. Mais bien entendu, ça ne s'invente pas, ça ne s'enseigne pas encore beaucoup. Donc, l'objectif d'un colloque comme celui-là, c'est justement de partager les savoirs, hein, les bonnes pratiques, et de savoir que qu'on soit un organisme communautaire, un activiste, un employé municipal, un architecte, On ne peut pas faire les choses soi-même. Il faut que ce soit une approche participative et partenariale.
Donc, ça veut dire qu'il faut consulter. C'est un peu l'autre message que vous dites. Donc, on veut une ville inclusive, on veut innover, bien sûr, mais de l'autre côté, il faut faire des partenariats, il faut que les gens se parlent. C'est ce que
oui,
vous dites.
C'est ça. Et donc, c'est un peu dans... Il faut réfléchir à la gouvernance de ce projet. Hein. L'approche inclusive, c'est un projet pour lequel il faut se mobiliser, comme je disais, comme passer à l'action. Et ça, ça demande la concertation d'un ensemble de partenaires et bien entendu au premier plan des personnes qui ont l'expertise de moins bien voir, de moins bien entendre, de moins bien se déplacer, d'avoir de la difficulté à comprendre.
Oui, qui connaissent les besoins. Qui connaissent exactement les besoins. J'ai envie de vous demander, avant qu'on poursuive, on entend bien là, les personnes qui sont conviées, qui participent à ce colloque-là, mais donc, ça ne s'adresse pas seulement aux chercheurs. Est-ce que les personnes qui n'ont pas nécessairement de chapeau, hein, qui n'ont pas le chapeau chercheur, organisme communautaire, etc., les personnes aveugles aussi qui nous écoutent, est-ce que ces personnes sont aussi bienvenues au colloque?
Bien sûr, bien entendu, et elles sont quand même importantes. On attend 200 participants et un petit peu plus. Et une bonne partie vient du milieu, donc des organismes ou des personnes elles-mêmes, sans qu'elles soient obligatoirement représentent un organisme de défense de droits, mais des personnes aussi dans le champ de l'accessibilité et des personnes intéressées à apporter leur expertise. Elles sont, je dirais, à peu près 80 personnes du milieu communautaire. On a des personnes des municipalités, des architectes, et on a aussi quand même à peu près un 20% de participants internationaux, incluant des personnes, par exemple, de l'Association des paralysés de France.
Ah oui, la très, très grande association qui se bat beaucoup pour la mise en place d'une loi en France.
Oui, qui est vraiment un des interlocuteurs majeurs pour la mise en place de la loi de 2005, qui visait l'accessibilité puis qui rencontre bien des obstacles dans la mise en œuvre aussi en France.
Ouais.
Je pense qu'on a tous besoin là de se donner des modes de concertation pour arriver à de véritables résultats.
Résultats, vous le dites souvent, c'est heureux, on espère en trouver. Mais avant qu'on passe à autre chose, j'avais peut-être même une petite colle. Est-ce qu'on peut faire rimer ville inclusive et hiver québécois? Est-ce que vous croyez à ça?
Oui, il y a des présentations. On a dans notre centre de recherche, notre équipe s'appelle Participation sociale et ville inclusive. C'est une équipe de recherche. Et on a un de nos chercheurs, Ernesto Morales, qui travaille justement sur le défi, l'enjeu, comment on tient compte justement de l'hiver. Et moi, j'aime bien dire que le handicap, c'est situationnel. Hein,
oui, c'est une situation.
On rencontre des situations de handicap aggravées en contexte hivernal. Est-ce qu'il y a des solutions? Il y en a, effectivement. Elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais on a aussi des exemples avec les pays scandinaves. Hein. Il y a des endroits où il y a des trottoirs chauffés.
Ah oui! Ben ça ferait le bonheur du maire Coderre qui l'avait annoncé à un certain moment à Montréal pour Sainte-Catherine-Ouest. En tout cas, juste avant qu'on conclue cette entrevue avec vous, je veux seulement rappeler que c'est le 30e anniversaire du RIPPH, le Réseau international de processus de production du handicap, cette année. Et plus encore, votre organisation, dont vous êtes le fondateur, est finaliste au prix à part entière. Alors, félicitations!
Bien, merci beaucoup.
Je suis assez content qu'on finisse par reconnaître votre très nécessaire expertise. En fait, vous avez déjà été reconnu à maintes reprises, mais on espère, en fait, on vous souhaite bonne chance pour ce prix-là. Et pour les gens qui ne le savent pas d'ailleurs, depuis 1998, Patrick Fujiroulas et d'autres ont développé une théorie essentielle qui a voyagé même jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, comme il reste quelque chose comme 40 secondes. Les gens qui veulent en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à la webdiffusion?
Je pense pas, non.
Ah non, non, OK, je suis désolé. Je n'avais pas vu ça nulle part. Je m'excuse pour les attentes. Mais donc, allez-y, ça veut dire qu'il faut y aller les 8 et 9 novembre prochains au pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval.
Et on va enregistrer tout le... En tout cas, ce ne sera pas la web diffusion en direct, mais on va toutes les communications et conférences sont enregistrées. Et donc, on va avoir un contenu vidéo et tout ça qui pourra être mis à la disposition des gens. Mm-hmm. On va lancer une plateforme qui va www.villeinclusive.com qui va devenir une plateforme centrale pour continuer la concertation, le partenariat. Et je vais inviter tous vos auditeurs à y participer. Et peut-être pour finir, dire qu'on va lancer la Déclaration de Québec, qui est véritablement un appel à l'action de l'ensemble des partenaires pour s'engager solidairement à travailler ensemble, à partager leur savoir et à continuer à travers cette plateforme à collaborer pour vraiment mettre en place de véritables villes inclusives.
Merci, c'est un excellent mot de la fin. Patrick Fujirolas, qui est non seulement chercheur émérite, mais aussi co-président du comité scientifique du colloque. Et on retrouve aussi de l'information sur la programmation de l'événement du 8 et 9 novembre prochain sur ripph.qc.ca. N'hésitez pas à y aller. Et donc, merci. Au plaisir de vous entendre de nouveau.
Merci beaucoup, Benoît.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. En pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain, pourtant tout allait bien. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée silencieuse. Je ne la lirai pas, je la lirai pas.
J'aime lire Albin de la Simone. C'est une chanson fort populaire à cette station. Bon, sur les risques, les aventures de la lecture, c'est souvent à propos et se lit aussi aujourd'hui, puisque dans un peu moins de 2 heures sera lancé le livre Interligne, livre lancé par les Compagnons de Montréal. Et avec nous, Doriane Keller, qui prend pas trop de temps pour souffler, là, cette journée pas mal chargée. Bonjour, Doriane Keller.
Bonjour, merci pour l'entrevue.
Ben, c'est un grand plaisir que vous soyez là. Dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière le titre du livre Interligne?
Alors en fait, Interligne, c'est un projet qui est né d'une envie de pouvoir contribuer à briser les clichés sur la déficience intellectuelle. Donc en amenant les gens à comprendre que malgré certaines limitations, ces personnes ont toute une vie riche et complexe, faite d'activités sportives, culturelles, sociales, et que comme nous, ben, ils sont uniques et contribuent aussi à leur façon, à la richesse et à la diversité de notre société.
Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on lit, en fait, si on lit entre les lignes et si on lit votre affiche, oui. On lit plutôt que déficience intellectuelle, on y préfère l'expression différence intellectuelle. Expliquez-nous un peu mieux.
Oui, tout à fait. En fait, nous, on travaille avec cette clientèle et c'est une clientèle qui a une diversité intellectuelle qui est assez extraordinaire. On s'occupe de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On engage également des personnes qui sont sur le programme d'aide et d'accompagnement social. Donc c'est un programme destiné aux personnes qui, pour des raisons personnelles ou des difficultés de vie, sont éloignées du marché du travail. Donc ce sont des personnes qui ne vivent pas nécessairement avec une déficience. Donc parler de différence permet de préserver la richesse de cette diversité, d'inclure toutes les personnes avec qui nous travaillons, et éviter d'enfermer toutes les personnes dans une même expression qui est quand même, somme toute, assez restrictive.
Donc, vous ouvrez, vous élargissez les lignes. Parlez-nous précisément de ce projet-là. En fait, ce livre n'est pas seulement un livre parce qu'on le lance pendant un vernissage.
Oui, tout à fait. En fait, donc c'est un projet qui a bénéficié déjà du soutien financier et de l'entente sur le développement culturel de Montréal. C'est une entente intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est né d'une envie de développer et de diffuser du contenu permettant de modéliser les capacités artistiques, rédactionnelles et de favoriser l'expression de soi.
Aha.
Donc ça permet d'amener les participants de notre centre d'activité de jour à mieux se connaître, à mieux se présenter aux autres. Nous leur avons fait nommer leurs goûts, leurs intérêts, les activités et passe-temps qui les animent et qui les rendent heureux. Et ça nous a permis de réaliser ce livre.
Oui, en fait, c'est quand même de gros concepts que vous nous sortez là. Pour ceux qui présentent des difficultés à la lecture, on va revenir, si vous permettez. Quand vous dites « modéliser les capacités artistiques et rédactionnelles », ça veut dire, au fond, les utiliser peut-être pour autre chose que juste la performance, pour rencontrer, se découvrir, développer son identité. C'est un peu ça, non?
Oui, ben, c'est tout à fait. En fait, c'est pour démontrer qu'ils sont experts de leur réalité et mettre en avant le savoir qu'ils possèdent. Donc, par la création de ce livre, en fait, il permet de devenir ceux qui transmettent au lieu d'être ceux qui apprennent.
Puis c'est aussi, oui, donner aussi, prendre parole, pas juste apprendre, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait aussi. Et également se réapproprier le livre, qui est parfois un concept assez difficile d'accès pour certaines personnes.
Oui.
Là, ça leur permet de se réapproprier le livre et d'être justement les acteurs qui produisent le livre plutôt que ceux à qui on essaye de faire accepter l'objet, finalement.
Donc, on sort du livre, on en fait un nouveau. Il n'y a pas seulement le livre parce que, je le répète, il y a un vernissage associé avec votre événement.
Oui.
Vous utilisez les arts plastiques aussi pour permettre aux personnes qui ont différence intellectuelle de se définir.
Oui, tout à fait. En fait, c'est pour qu'ils puissent prendre leur place sur la scène artistique montréalaise. Ils ont chacun participé au processus de réalisation du projet. Et ensuite, en nommant leurs intérêts, ça a permis de contribuer à développer leur plein potentiel, mettre en avant leurs forces et se développer ainsi sur la scène culturelle et artistique.
Est-ce que vous avez quelques exemples de certains de vos membres ou participants? Est-ce que vous avez en tête, des personnes qui ont découvert des choses particulières, des histoires un peu plus personnelles?
Nous avons des personnes, en fait, qui ont beaucoup de difficultés à communiquer, qui ont quand même réussi à exprimer beaucoup de choses qui étaient difficile d'accès pour eux à l'origine initialement. des personnes aussi qui ont beaucoup de difficultés à écrire ou qui ne peuvent même pas écrire d'ailleurs, qui ont réussi à développer des capacités d'écriture, des capacités aussi à modéliser ses pensées, à modéliser son potentiel créatif, parce que c'est parfois des personnes qui ont juste besoin qu'on leur offre cette capacité-là de pouvoir se développer. Mais après, pour rencontrer les personnes et savoir lesquelles, je vous invite à l'événement du vernissage pour que vous puissiez rencontrer en personne toutes ces personnes.
Ah ben oui, ben donc on va avoir une expérience personnelle de cette aventure. À qui ça s'adresse d'ailleurs, Interling? Ça s'adresse à tout le monde?
Ça s'adresse effectivement au grand public, en fait, justement pour faire découvrir l'univers de la différence intellectuelle. Permettre à tous les citoyens de découvrir le potentiel et l'univers des participants. Donc ça inclut les adultes, les enfants. Il y a déjà eu une lecture du livre à la bibliothèque de Rosemont la semaine dernière. Donc voilà, c'est juste en fait pouvoir rentrer un peu plus facilement dans le quotidien de ces personnes, découvrir leurs rêves, les aspirations, les passions qui les animent. Et toutes ces personnes finalement avec lesquelles on a le plaisir de travailler à Compagnons de Montréal.
Est-ce qu'on peut l'acheter ce livre-là, j'espère?
Oui, tout à fait.
Et donc ça contribue à votre mission doublement?
Oui, parfaitement. Oui, c'est au coût de 25$, puis ça contribue à tous les services en fait que nous offrons, qui sont quand même assez nombreux.
C'est dans quel distributeur, quelle librairie vont pouvoir rendre ça disponible?
En fait, il n'y a pas de distributeur particulier. On a fait appel à Imprime Emploi pour la réalisation du livre. Je l'ai monté sur en infographisme, puis Imprime Emploi, puis l'imprimer. C'est un livre assez particulier. Il y a quand même une caractéristique à l'intérieur assez complexe et assez intéressante. Les personnes sont imprimées sur un papier transparent, donc ce qui permet ensuite, quand on tourne la page, de pouvoir accéder directement quelque part et de façon imagée dans leur tête.
Wow.
Comprendre. Mais en fait, c'est le livre où vous pouvez l'acheter directement à Compagnons de Montréal.
OK, bon, bien. Ben, écoutez, on espère aussi que les gens vont attendre pour avoir envie de distribuer ce livre-là. Il faut se saisir, ou plutôt saisir ce livre-là, être inspiré par cette démarche. Rappelons son titre, Interligne. Pour plus d'informations, on repère...
Vous pouvez aller sur notre site internet, donc www.compagnonsdemontréal.com, ou sinon même me contacter, en fait, l'agent de communication, donc Dorian, à Compagnons de Montréal.
Et d'ailleurs, en première page de votre site, on retrouve la promotion du livre, et on n'oublie pas que cet après-midi, on peut se retrouver au 6421 Première Avenue à 14h pour rencontrer les gens qui ont fait cette expérience, quelque chose d'assez unique.
Tout à fait, il y aura un vernissage avec les œuvres originales qui sont exposées et encadrées, les personnes qui ont contribué au livre qui seront ici, donc les participants du centre d'activité de jour, et également le CREP aussi qui a permis de la réalisation de ce projet.
Donc le CREP, c'est le centre de ressources... c'est quoi déjà? Il faut le dire parce qu'il y a eu des difficultés financières, puis c'est très important ce qu'ils font. Le CREP,
oui,
c'est quoi déjà?
Tout à fait, c'est le centre de ressources en éducation...
populaire?
Je vais vous le dire, centre de ressources en éducative et pédagogique.
Éducative et pédagogique, c'est ça, merci. Donc, bon lancement, Dorian Keller, on sera avec vous, et donc au plaisir de vous reparler.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
sur les airs de guitare manouche, on se quitte. Et on remercie surtout Dorian Keller, des Compagnons de Montréal, qui, avec d'autres, lance un livre cet après-midi. Patrick Fougérolas, merci beaucoup. Notre chroniqueur Franck Bouchard, pour comprendre le monde du travail, merci. Doris Provencher, Jean-Marie Damour. Pour réécouter l'émission ou pour les coordonnées des intervenants et des organismes qui sont venus ici, rendez-vous sur le site du Canal M. On va même y ajouter des informations sur les consultations pour un Canada accessible. Donc, je tiens aussi à souligner le travail de l'équipe, Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna, Anne-Laure Janson. Ici Benoît Racette. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de monde. Mais on va finir par faire ensemble un véritable accès libre.